Vous savez quel est le thème de cet atelier que nous avons. On va mettre de l'ordre. On va commencer par fermer les mots. Non. Il est fermé.
Dans l'autre, non. Un petit peu.
Voilà. Voilà. Bien, vous savez quel est le thème de ce 31e atelier. Il s'agit de scruter 5 chefs-d'œuvre de la peinture européenne du XVIIe siècle, ce qui va nous permettre évidemment en fin de piste, en fin de parcours, d'avoir une sorte de regard un peu général sur la peinture en Europe à cette période. Alors vous rappelez que la semaine dernière, nous avons scruté une œuvre de Georges de la Tour, Job et sa femme. Vous savez, je vous l'ai peut-être dit ou pas, je ne sais plus, Georges de la Tour est considéré, les sondages le montrent, hein, comme le peintre du XVIIe siècle français, le mieux connu par les Français. Et d'ailleurs, le tableau du musée de Rennes que je vous avais montré, le nouveau-né, est considéré comme le tableau du XVIIe siècle français, le mieux connu par les Français. Voilà. Donc, en termes de chef-d'œuvre, Georges de la Tour et certains des tableaux que nous avons vus se posaient là. Aujourd'hui, on va évidemment aller dans d'autres directions. Alors, je ne vous rappelle pas les règles qui sont les nôtres, hein, je les avais mises la dernière fois, je ne vais pas les émettre à chaque fois comme je le faisais naguère. Je vous propose que d'emblée, on s'intéresse au tableau qui est l'objet de la séance de ce jour, ce tableau que je vais vous dévoiler, mais avec le suspense qui est bien nécessaire. Hein. Le tableau, c'est celui-ci. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous. Vous savez que nous commençons toujours de manière un peu ordonnée. Je vous demande donc de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre. Non pas ce que vous en pensez à titre personnel, ça, vous savez bien que ça n'est pas notre problème ici, nous en l'histoire de l'art. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette œuvre-là?
C'est une scène d'histoire, d'abord, ok.
Biblique, sans doute, ok.
Oui, parce qu'il y a des caractères hébreux.
Des caractères hébreux, donc on est vraisemblablement devant une scène biblique, très bien.
Il y a un roi. Il a une couronne sur la tête,
effectivement. A priori, c'est une couronne sur la tête, c'est un personnage important, pourquoi pas un roi? Ok. Ensuite.
Les gens ont l'air effrayés.
Oui. Le roi aussi. Donc les gens ont l'air effectivement effrayés, le roi aussi.
Il y a une femme qui verse de l'eau, je pense.
Oui, elle a l'air de, effectivement de renverser même. Hein.
Renverser sa coupe.
Oui,
c'est sa coupe.
Ils ont l'air effrayés de la parole biblique qui sort de la main.
Ils ont l'air effrayés de la parole qui sort de la main d'un haut.
Ou de la lumière.
Parce qu'effectivement, vous avez noté qu'il y avait des choses écrites en hébreu, en haut à droite. Vous venez de parler d'une main.
On voit une main qui est proche de cette parole.
Il regarde. Enfin, on a l'impression qu'il regarde par là et que c'est ça qui les
effraie.
Voilà, qui les effraie. Ok.
C'est une vengeance divine.
Une prophétie.
Sur le plateau, est-ce que c'est des pièces de raisin?
Ici.
C'est du raisin.
Là, il y a des raisins. Là, à côté, c'est une sorte de plat. Alors, soit c'est un plat retourné, ce qui est possible, soit c'est un couvercle gaudronné. Je pense plutôt que c'est un plat retourné.
Donc, ils étaient à table.
Visiblement, oui, on est à table.
Il y en a deux chutes d'eau de liquide.
Ouais. Une là. Deux chutes de liquide, évidemment. C'est peut-être pas forcément de l'eau, comme vous suggérez.
Ouais. Les personnages sont richement habillés et ont des bijoux. Hein.
Oui, ça c'est important de le remarquer. Évidemment, les personnages sont très richement habillés, notamment ce roi. Hein. Mais les autres personnages le sont tout autant. Hein.
Oui.
Ouais.
La seule couleur rouge est à droite, alors que tous les autres personnages sont en sombre, sauf le principal, qui a
la dorure,
un tissu damassé ou brodé.
Oui, ou peut-être brodé, effectivement, de fil d'or, semble-t-il. Voilà, ce sont des gens qui ont quelques moyens, certaines positions.
Le personnage féminin à gauche, on a l'impression ne regarde pas la même chose.
Oui, ce personnage-là, effectivement, tel qu'on la voit, on a l'impression qu'elle est effrayée, mais sans voir la même chose.
Sur celle qui est tournée,
complètement en premier plan.
Celle-là, elle voit carrément, enfin, visiblement, elle ne voit pas même.
Oui, voilà, elle regarde, c'est la seule qui est un peu.
Oui. Non, effectivement, celle-là n'a pas l'air spécialement concernée. D'ailleurs, ceux-là, on n'a pas l'impression qu'ils regardent là, spécialement.
Non, mais il voit la surprise ou la frayeur du personnage principal.
C'est ça. Donc peut-être qu'en fait, il voit la frayeur du personnage principal, donc ils sont effrayés de la frayeur. Ils ne sont pas effrayés de ce qui fait la frayeur.
Ils entendent peut-être.
Peut-être que celui voit le texte et que les autres ne le voient pas. D'où le fait que lui est effrayé, ça effraie les autres, même s'ils ne voient pas.
Ça fait penser à une punition divine.
Une sorte de punition divine.
Un rappel à l'ordre,
peut-être. Un rappel à l'ordre. OK. Alors, avant d'essayer de... Donc, je crois que vous avez dit déjà pas mal de choses. Vous avez... essayer de cerner le sujet. Avant peut-être d'essayer de deviner de quel sujet il s'agit, peut-être que vous le savez, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez caractériser cette toile, c'est une peinture sur toile, hein, est-ce que vous pourriez la caractériser, si vous aviez à souligner les caractéristiques de cette œuvre, qu'est-ce que vous diriez ?
Très classique.
Pardon ?
Classique.
Classique.
Il y a une diagonale quand même qui est très claire.
Ouais. Donc une œuvre classique, une œuvre structurée, vous parlez d'une diagonale, celle du personnage principal.
Oui, c'est vrai. La main aux lettres.
Oui.
Donc une école, quoi. Une école qui est bien appliquée, une école de peinture. Hein.
Quelque chose d'appliqué, d'académique, vous voulez dire peut-être ?
Oui.
Ok.
Ce qui est étonnant, c'est que les personnages sont coupés aux à droite et à gauche,
oui.
Ce qui n'est pas très habituel.
Un drôle de cadrage, lui peut-être est moins académique, alors peut-être que ce qu'on vous disait précédemment.
Il y a un musicien là.
Oui, il y a un petit personnage qui joue de la musique, qui joue de la flûte.
Derrière cette femme emplumée là, on voit un personnage qui joue du flûte, une flûte. Okay. Donc, une composition structurée, on a parlé de cette grande oblique, une composition historique, vous le disiez, une composition vous avez dit classique. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous auriez encore pour caractériser cette œuvre ? Imaginez que je sois au bout du fil, que je ne la vois pas, que je ne la connais pas, vous avez à me faire comprendre de quoi il s'agit. Au-delà du sujet que vous avez décrypté, est-ce que vous aviez à me dire un peu, parce que moi je ne sais rien, vous aviez à me dire qu'est-ce qui la caractérise encore une fois ?
Un travail très réaliste, très
minutieux. Un travail réaliste. Quand vous dites réaliste, vous...
C'est-à-dire pas la scène en elle-même, mais les vêtements, par exemple, les bijoux,
la nature morte sur la table.
On pourrait toucher le tissu là, qui est damassé ou...
Donc un travail réaliste, aussi bien pour les éléments qui composent la nature morte, hein, effectivement le vêtement du personnage, la coupe de fruits au premier plan, que les personnages eux-mêmes.
Oui.
Hein. Oui.
Et puis peu d'application de la lumière également, sur les visages, notamment sur le visage de la dame du fond, ou celle qui est de dos.
Justement, si on parlait de la lumière, qu'est-ce que vous auriez d'autre ? Donc il y a, vraiment, la lumière joue un rôle.
Oui.
Lequel, elle vient, justement ?
Elle vient de là-haut, de l'inscription.
Donc c'est quelque chose de très lumineux.
Oui.
Mais il y a un fond,
mais il y a un fond noir.
Donc c'est peut-être pas, parce que moi je suis au téléphone, je n'ai pas l'œuf sous les yeux. Donc pour vous, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Pour l'instant, moi, je vois une œuvre peignée de soleil, vous voyez. Non, c'est pas peignée de soleil. Alors, il y a une lumière qui vient, mais...
Au arrière-plan, mais pas en arrière-plan.
Ok, donc l'arrière-plan, lui, n'est pas lumineux.
Non, l'arrière-plan, c'est au contraire.
Il y a une couleur vive, rouge, que le rouge.
Oui.
Il n'y a pas le vert, il n'y a pas le
vert. Effectivement, c'est assez monochrome. Oui. Une couleur vive, le rouge, vous le disiez, et le reste assez gris-ocre, on va dire.
Il
n'y
a pas de décor.
Pardon ?
Il n'y a pas de décor.
Il n'y a pas de décor.
C'est comme chez Georges de Latour, il n'y a pas de décor.
C'est vrai. Pas de décor. Effectivement, on ne voit pas de... Où est-ce qu'on est, on ne sait pas trop.
Oui, il n'y a pas d'architecture.
Pardon ?
C'est un peu oriental.
Ah, une dimension orientale. Ah oui, c'est important, vous ne l'avez pas du tout. Parce que moi, je me voyais, puisqu'on est en Europe, vous voyez, avec... Donc, un peu oriental. Ah oui, ça, c'est un peu le turban. Ah oui, ça, c'est important, parce que pour l'instant, moi, je n'avais pas vu, puisque vous ne l'avez pas dit.
Donc,
pardon ?
Un turban, c'est plus une couronne. Et puis comme c'est biblique, puisque
comme c'est biblique,
c'est Moyen-Orient, c'est Moyen-Orient.
Oui. Oui. Quelquefois, il y a des scènes bibliques qui sont présentées de manière. Rappelez-vous du Job de la semaine dernière. Il était vraiment très lorrain. Là, donc, ce serait une scène biblique, mais représentée de manière très orientale.
Okay. Mais il n'y a que le turban.
Il n'y a
que le personnage.
Il n'y a que le turban. Autrement, le reste n'est pas très oriental.
Non, non, non.
La dame qui est à gauche, elle a un chapeau à cure. C'est pas oriental du tout.
Donc il y a un mélange d'éléments orientaux, le turban, et d'éléments qui ne sont pas trop. Par exemple, la femme assise au premier plan, qui a un espèce de chapeau à plume, qui lui ne fait peut-être pas très oriental. Pardon ? Même celle qui est en rouge, elle n'est pas trop orientale ?
Ben, quand même.
Quand même.
Quand même. Un petit peu dans la défaire, dans les cheveux, sur la robe. Enfin, quoi que ça dépend.
Je crois que c'était la mode aussi.
Oui, oui, oui.
De voir
oui.
Des perles partout.
Oui. Et puis la composition, elle est assez recherchée parce qu'il y en a aussi comme ça, et le personnage principal au milieu
vertical. Oui, décidément, une structuration. Donc, je résume un peu ce que vous avez dit. On a une composition assez structurée, avec des lignes, effectivement, maîtresses. Une composition qui est du chromatisme et d'une composition un peu monochrome, qui va de l'ocre au gris, on va dire, avec quand même une touche de rouge à droite, mais c'est un peu la seule touche qui réveille, on va dire, le tableau. Une représentation assez réaliste, aussi bien dans les éléments des vêtements, des objets, que des personnages eux-mêmes, qui sont donc, encore une fois, assez réalistes. Il y a une petite touche orientale avec ce turban qui est quand même en plein milieu, alors que les autres éléments sont moins évidemment orientaux. Et puis, vous avez parlé, j'aurais dû le dire avant d'ailleurs, de la lumière. Une lumière, en fait, qui éclaire certains éléments, mais pas d'autres. Puisque le fond est très sombre, au contraire. Donc une lumière très, très sélective. Et puis une scène qui flotte un peu dans rien, parce qu'à vrai dire, on voit des espèces de nuées dans le fond, mais on ne sait pas du tout si on est dehors ou dedans. Voilà, difficile de dire quel est le contexte, on va dire. Je résume après tout ce que vous avez dit. Bien. Alors, maintenant, reste à savoir quelle est la scène. Parce que vous avez dit plein de choses, ok, mais à vrai dire, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit.
C'est un roi d'Israël.
Un roi d'Israël.
Vu la couronne, le style et les inscriptions, c'est un roi d'Israël. Alors après, dans les rois d'Israël, on a...
Donc l'histoire d'un roi d'Israël.
David, Salomon,
Saul.
David, Salomon, Saül. Ou Saul, on va dire les deux.
David.
David.
Oh non, pas David. Non, pas David.
Pas David.
Je penserais plutôt à Saul.
Bon.
Hérode.
Ok. Et il lui arrive quoi ? Ben, il lui arrive ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a une intervention divine qui fait que soudain, quelque chose est révélé et qui a l'air assez effrayant, en tout cas pour le protagoniste principal. Et cette frayeur du protagoniste effraie les autres. Bien. Okay. Une idée d'une scène, s'il s'agit de Saül ou Saul ou... David, l'idée d'une scène particulière, un moment précis ?
Non.
Non. Pardon.
Il faut vous en souvenir, hein, c'est pas. Je sais qu'il y a un moment, il y en a un qui n'a pas écouté.
Ah ouais, il y en a pas mal qui n'ont pas écouté.
Ouais. Ils sont fâchés.
Ouais. Ah, il y en a qui n'écoutent pas. Ça,
il peut y avoir une corrélation entre la menace ou l'injonction divine et puis ce qu'on présente la scène, c'est-à-dire quand même la richesse.
Allez. Donc il y a une corrélation entre la richesse qui est très manifeste hein, dans cette scène. Vous avez parlé hein, des vêtements très... Il n'y a que ça qui est riche d'ailleurs.
Je pensais qu'il y avait un bon
bijoux,
repas.
Les bijoux,
il y avait
un bon repas.
Bon repas.
Donc le repas est riche, il y a des bijoux, les vêtements le sont. C'est tout.
Les argenteries.
Ah oui, la vaisselle, on va dire. Hein. La vaisselle a l'air riche. Visiblement, ce n'est pas une vaisselle en plastique. Hein. Okay. Donc c'est riche, et donc il y aurait une sorte de corrélation entre cette richesse-là, visiblement très ostentatoire, voilà, hein, et le rappel à l'ordre, hein, qui semble être fait dans les nuées. Bien. Et ça vous rappelle une scène? Non. Bon. Et alors maintenant vient la question fatidique, mais qui n'est peut-être pas la plus compliquée, de qui est-ce?
Un flamand.
Rembrandt. Un flamand, Rembrandt. Rembrandt qui n'est pas tout à fait flamand d'ailleurs. Mais...
La jeune femme au fond, elle a l'air de sortir d'un
truc de Rembrandt.
Ouais, donc la femme du fond fait penser à Rembrandt, donc un Hollandais. Je rappelle que Rembrandt est Hollandais.
Donc,
pardon.
Effectivement,
Rembrandt a beaucoup présenté sa femme Saskia, et cette femme peut faire penser au portrait fait par Rembrandt de Saskia, c'est juste.
Mais même le patriarche, monsieur plus ancien, a l'air d'être un autoportrait. On en a des autoportraits de Rembrandt.
Oui. Donc, quand on dit le patriarche, c'est celui-là.
Oui, là.
Ouais.
On le voit aussi âgé, avec cette barbe.
Qu'il aimait les dessins.
Ouais. Oui, donc effectivement, ce personnage peut faire penser aux très nombreux autoportraits qu'on connaît de Rembrandt. Rembrandt qui parfois s'est d'ailleurs représenté jouant un rôle. Hein.
Oui.
Certains se rappellent peut-être, quand on a fait un des 30 ateliers antérieurs, vous avez montré par exemple le Rembrandt en Zeuxis, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
On avait parlé de l'histoire de la peinture.
Avec la peinture, oui. Voilà.
Donc Rembrandt, il peut effectivement se faire représenter d'une certaine manière. Donc cette femme rappelle un peu les portraits de l'épouse de Rembrandt, Saskia, alors que le personnage à côté, de ce vieillard chelu et barbu, peut faire penser effectivement aux autoportraits de Rembrandt, quelquefois jouant un personnage. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour Rembrandt? Parce que j'entendais parler de flamand aussi.
Non,
Ben, j'en entends plus parler.
Non, on reste
bien. Et est-ce que vous en restez là? Vous en restez à la Rembrandt?
Oui.
Ok. Bon, ça me paraît une intuition assez fine et intéressante, effectivement. Bien.
Il y a un mais,
pas pour l'auteur, parce que vous avez trouvé, c'est Rembrandt. On parle quand même de grand chef-d'œuvre, hein. Voilà, Rembrandt, c'est quand même un des noms essentiels de la peinture en Europe au XVIIe, ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Non, le mais, il est au niveau du sujet. Le sujet vous l'avez quand même bien envisagé, hein, mais vous n'avez pas trouvé le sujet. Hein. Mais bon, je comprends que c'est quand même pas si évident. La Bible, je l'ai amenée, hein. C'est quand même un peu gros. Hein. On n'est pas obligé de tout connaître non plus. Hein. Encore que certains connaissent peut-être cette scène. Alors, je vous révèle. C'est le festin de Balthazar. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du festin de Balthazar?
Pas du tout.
Mais c'est pas le même Balthazar que les rois.
C'est pas le Balthazar des rois mages. Hein. Alors, on l'écrit avec un Z ou un S, ça dépend. Tout est possible. Alors, c'est une histoire de la Bible. Je crois que c'est dans le livre de Daniel. Je vous raconte en gros la chose. Hein. Balthazar est indiqué dans la Bible comme étant le fils de Nabucodonosor, hein, qui, vous savez, est un grand souverain assyrien qui a fait des conquêtes très importantes et notamment qui a pris Jérusalem. Et au moment où Nabucodonosor a pris Jérusalem, il a notamment pris la vaisselle sacrée, les trésors du temple de Jérusalem qu'il a ramené à Babylone. Balthazar, qui est son fils et qui règne après Nabucodonosor sur son empire, décide un jour, lors d'un festin suffisamment arrosé, vous avez noté d'ailleurs que tout ça coulait à flot, décide pour, j'allais dire, épater ses hôtes, d'utiliser la vaisselle du temple de Jérusalem, prise par son père, pour le repas, pour ne pas dire pour l'orgie qui se donne au père. Et au moment où le repas a lieu, soudain, Balthazar voit, de manière complètement miraculeuse, une main qui, venant de nulle part, écrit sur la paroi ce que vous voyez là. Alors, moi, je ne lis pas l'hébreu, mais je vous en dis quand même la traduction, c'est « Mané Tessel Phares ». On a énormément glosé autour de ces trois mots, parce que, comme très souvent, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de la langue hébraïque, mais ce qui est assez fascinant dans cette culture, dans cette langue, c'est que souvent, il y a des polysémies, c'est-à-dire des mots peuvent dire plusieurs choses, ce qui évidemment crée toute la richesse de cette culture extraordinaire. Hein. Et il semble, je vous la fais courte, hein, que, grosso modo, ça veut dire quelque chose comme... c'est bien pesé, bien mesuré, et ça va se finir là, quelque chose dans ce goût-là, hein, parce que je crois que c'est Tessel qui doit vouloir dire poids, Mané qui doit vouloir dire le nombre, et Phares qui veut dire la fin, quelque chose comme ça. Hein. Alors évidemment, en voyant ces trois mots qui s'inscrivent sur le mur, le roi Balthazar est un peu surpris, pour ne pas dire un peu effrayé, parce qu'on ne voit pas tous les jours une main qui écrit quelque chose sur la paroi. Il est effrayé, mais il est effectivement, ça vous l'avez bien senti, c'est bien, il est un peu le seul à le voir. Parce que les autres, alors ça dépend un peu des versions et surtout de la manière dont ça a été interprété, mais les autres, il est dit dans certains cas qu'effectivement les autres convives ne le voient pas, mais voient par contre la frayeur du roi. C'est un peu ce que vous avez vu. Hein.
Oui.
Alors, le roi, ne comprenant pas trop ce qu'il en est, fait venir Daniel, le prophète, pour qu'il il lui explique ce qu'il en est. C'est quand même un peu obscur. Si vous voulez. Et c'est Daniel qui va lui interpréter ça en lui disant, écoute, ce qui est inscrit sur la paroi montre que ton empire, tout bien pesé, tout bien mesuré, touche à sa fin. Lui quand même un peu notre Balthazar. Mais la prophétie était d'autant plus juste que dans la nuit même qui suit le dit festin, Balthazar va être tué par des partisans de Darius, les Perses, qui vont prendre le pouvoir à sa place. Donc vous avez là quelque chose qui est à la fois une sorte d'anathème. Hein. Il a profané la vaisselle du temple de Jérusalem, ce qu'il ne devait pas faire. Déjà, elle a été pillée par son père du temple, ce qui n'était pas très bien. Mais en plus, c'est qu'il la profane. Hein. En l'utilisant à des fins qui ne sont pas du tout religieuses. Donc, il est puni pour ça. Et il est puni par cet anathème qui est en même temps une prophétie qui lui signale la fin de son règne. Chose qui va bel et bien arriver dans la nuit suivante. Voilà l'histoire du festin de Balthazar. Cette scène, à vrai dire, elle a été assez souvent représentée dans la peinture. Hein. Bon, ce n'était pas le sujet de l'atelier, hein, mais je vais vous en montrer quand même deux exemples, et je pourrais vous en montrer beaucoup plus. Hein. Voilà, par exemple, un tableau d'un peintre allemand du XVIIe siècle, qui s'appelle Strobel, qui représente à nouveau le festin Balthazar. Alors, vous voyez de nouveau les gens qui festoient la belle vaisselle. Balthazar, il est là. Vous voyez qu'il est très surpris. Les autres ne le sont pas, ils ne voient pas trop. Hein. Mais qu'est-ce qu'il voit là-haut? Il voit la main tout à fait en haut. Hein. Une main qui est en train, vous le voyez, d'écrire cette fameuse formule. Hein. De la même manière, pour vous montrer que l'Europe entière est dans le coup, si j'ose dire. Hein. Rembrandt est un Hollandais, on voit un Allemand, maintenant voilà un Italien, Bertuzzi, qui nous montre le festin de Balthazar. Tout le monde est en train de ripailler tranquillement, et là Balthazar voit, alors qu'on profane la vaisselle, voit là-haut une main sortie de nuée qui sur la paroi écrit Bané, Tessel, Phares, toujours la même formule. Hein. Une formule encore une fois un peu mystérieuse qui demande à être interprétée. En fait, bien placé pour le faire. Hein. Voilà. Donc vous voyez que c'est un. Quand Rembrandt peint ça, il n'est pas le seul là, à trouver soudain cette idée. D'autres peintres font de même, plus ou moins à la même période.
Excusez-moi, dans la Bible, ce sont ces trois.
trois mots qui sont...
Absolument, tout à fait. Alors, ils peuvent être, selon les traductions de la Bible, transcrits de manière différente que celle que j'ai faite. Moi, j'ai pris la transcription de ma Bible à moi, si j'ose dire. Collection Bonquin, traduction de je ne sais plus qui, le maître de Sassy, tout simplement. Non. Donc, voilà. Une des traductions officielles, on va dire, de la Bible. Voilà. Mais vous savez que la Bible, et surtout l'Ancien Testament, est bourré d'histoires de ce genre absolument fascinantes, d'ailleurs, parce que au-delà de leur nature même, hein, et souvent des prodiges qui sont racontés, ces histoires sont toujours sujettes à caution, interprétation, on peut les dire de tas de manières différentes. C'est ça qui est à la fois très beau, très poétique, très compliqué aussi dans la Bible, mais qui est très riche. Donc évidemment, ça a toujours fasciné les peintres, quoi, hein. D'autant que Rembrandt, je vous le rappelle, qui vit en Hollande, vivait à Amsterdam, et la communauté juive d'Amsterdam est extrêmement importante. Hein. Donc Rembrandt vit au milieu, et donc il est dans ce bain-là. Hein. En plus, bien entendu, à une époque où à la fois le catholicisme et le protestantisme jouent un rôle très important, et donc baignant dans ce bain-là, si vous voulez, Rembrandt, il représente beaucoup de sujets bibliques, et tellement d'ailleurs que c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai rapporté la Bible, parce que je me suis dit, tiens, on en aurait peut-être besoin parfois. Je vais vous montrer toute une série d'œuvres de Rembrandt qui évoquent des passages de la Bible. C'est très important de les reconnaître, parce que vous savez que la peinture, notamment en Europe, et notamment celle de Rembrandt au XVIIe siècle, est très habitée par ça, hein, mais toute la peinture européenne du temps. Hein. Donc la Bible, c'est un des éléments vraiment fondamentaux pour simplement regarder, comprendre la peinture. Si on ne la connaît pas, on est complètement perdu. Hein. Alors on va voir comment Rembrandt, à partir d'une vingtaine d'œuvres, va travailler la Bible un peu dans tous les sens. En plus, on va essayer peut-être de voir... parce que je vous ai dit que l'œuvre de Rembrandt s'étale sur quand même pas mal de décennies, hein, et le style de Rembrandt a beaucoup changé du début à la fin. On va peut-être essayer de voir si les œuvres sont plutôt du milieu, du début ou de la fin de la carrière de l'artiste. Ça va nous permettre en même temps, c'est-à-dire de travailler sur l'œuvre de Rembrandt lui-même et de comprendre un peu les inflexions de ses travaux. Je vous montre une première œuvre.
Deuxième.
Oui, enfin une deuxième, oui. Facile. Oui, j'ai voulu commencer soft, hein, par une œuvre que tout le monde peut reconnaître.
Moïse, l'état de la loi.
Moïse, qu'est-ce qu'il fait avec l'état de la loi ?
Il va les casser.
Il va les casser. Et il va les casser pourquoi ? Il est furieux, oui.
À cause du Godor.
Voilà. Alors, il, c'est qui ?
Ben c'est tous les Hébreux.
C'est ça.
Qui ont fui l'Égypte.
Voilà.
Pendant qu'il était.
Quand il était sur le Sinaï.
Voilà. C'est ça. Hein, Moïse est monté sur le Sinaï pour aller recevoir de Dieu les tables de la loi. Et pendant qu'il était monté sur le Sinaï, en train de recevoir les tables de la loi, ce qui a pris 2 minutes quand même, hein, les Hébreux se trouvant tout seuls et, j'allais dire, un peu libres de faire ce qu'ils voulaient, se sont dit ben, Moïse nous a abandonnés, nous a quittés, ben, on va essayer de trouver. Un autre dieu adoré, ils sont mis à adorer le veau d'or, qui est en fait une sorte de réminiscence du dieu Apis égyptien. Hein. Et voilà, ils vont adorer le veau d'or. Et en effet, en arrivant sa colline, c'est bien, sa montagne, Sinaï, Moïse arrive avec les tables de la loi et voit son peuple qui est en train d'adorer le veau d'or. Et il voit à sa place. Lui vient de recevoir les tables de la loi de Dieu lui-même, et son peuple est en train d'adorer le veau d'or. Ça fait désordre, si vous voulez. Hein. Et de rage, ils ont fait brandir les tables de la loi et les briser au sol, donc ils sont obligés d'aller en rechercher une série, si vous voulez. Et vous voyez là l'épisode de Moïse en train de briser les tables de la loi. Très bien. Bon, ça...
Il y en a qui a deux épaisseurs.
Oui, bah oui, il y a deux tables.
Il y a toujours deux tables.
Effectivement, habituellement, il y a deux tables. Elles sont côte à côte, là, elles sont l'une derrière l'autre. Effectivement, il y a une sorte de double épaisseur. Et vous voyez aussi les cornes de lumière, hein, sur le fond de Moïse. Bien, super.
L'âne de.
Il y a effectivement un âne.
On a déjà vu cette scène par d'autres pages, mais j'ai oublié le propos.
Dans le sac, il y a des feuillets.
Il y a quelqu'un qui maltraite un âne, oui. Ce qui n'est pas bien du tout.
Et l'ange
intervient.
Grandit sa larme.
Oui.
Derrière, il y a un cheval avec deux personnes.
Oui, derrière, on voit effectivement les gens qui arrivent avec un cheval, oui.
Deux enfants.
Oui, on voit des vieux blancs, des jeunes gens, là, derrière, oui.
Il y a un livre dans le bas, de la... avec une inscription, mais...
Ouais.
Oui, il y a un livre, puis il y a deux livres. Manuscrits.
Dans sa besace, et puis il y a un bâton, une sorte de bâton.
Donc, on est en train de malmener un âne. Le personnage qu'il malmène dans le bas de l'âne transporte un ouvrage épais avec des tas de choses. Il y en a même deux, du reste.
Oui, deux.
Visiblement, c'est un athélo, ce gars-là.
J'ai un nom qui me vient à l'esprit, mais c'est l'âne de Balaam. Mais je ne sais pas si c'est
l'âne
ça.
L'âne de Balaam, c'est quoi ça?
Je ne sais plus.
Ah. Enfin, certains ont dû le voir, parce que je ne suis pas sûr que ce soit la première fois que je vous le passe, ou du moins par d'autres artistes.
Oui, par d'autres.
Si vous allez à la Cathédrale d'Autun, vous allez voir cette scène à droite. Quand vous voyez le tympan de la Cathédrale d'Autun, 12e siècle, à droite, il y a la même scène. On verra tout à l'heure, quand on relèvera les copies de quoi il s'agit, comme d'habitude. Simplement, si vous aviez à, là aussi, caractériser cette œuvre par rapport à Rembrandt, qu'est-ce que vous diriez?
Plutôt au début.
Ouais.
C'est dans un décor. Alors que, après, c'était beaucoup plus des couleurs un peu assorties dans les
couleurs. Mm-hmm. Ouais. Donc on serait plutôt au début. Effectivement, il y a un décor. On n'aura pas ce côté un peu... sfumato qu'on a à la fin, qu'on a vu par exemple dans le festin de Balthazar.
Très lumineux,
c'est en plein jour.
Il y a une partie lumineuse et il y a une partie aussi en obscur.
Il y a une petite partie obscure, ouais. Mais c'est vrai que la scène est beaucoup plus baignée de lumière, on est à l'extérieur, on voit le décor, on n'est pas dans le côté suspendu.
Il y a des végétaux affirmés.
Absolument, très affirmés, oui.
C'est pas un collecteur d'impôts, quelque chose.
Un collecteur d'impôts? C'est vrai qu'il y a une ouverte sans bien. Il y a une autre chose qui me frappe, moi.
C'est l'ange,
non?
Alors, il y a l'ange qui frappe, d'ailleurs. Effectivement, je pense que ça me frappe, mais il frappe.
Il y a personne. Ben, ils ont des plumes, il y a des turbans. Il y a
voilà.
Et puis il y a des.
Il y a toujours, effectivement, cette touche orientale. Qu'on a vu dans le premier tableau que je vous ai montré, le turban, il est quand même beaucoup, jusque d'ailleurs ce type de phénomène. Rappelez-vous Balthazar, alors on le voyait moins, puis il avait une sorte de chasuble qui faisait plutôt penser à un prêtre. Mais en dessous, il avait quelque chose comme un cafetan, je ne sais pas comment appeler ça, un peu du même genre, qui n'est pas très occidental. Genre de vêtements qu'on voit plutôt à partir de l'Europe orientale et après.
Encore un turban.
Donc on est vraiment là aussi dans un tableau qui a cette touche orientale que l'on voit volontiers chez Rembrandt.
Bien. Ce qui est surprenant aussi, c'est que les deux jeunes adolescents sont on distingue mal leur visage.
Oui.
Il a une sorte de flou par rapport aux autres. On les voit mal.
Oui, ils sont dans l'ombre, effectivement, on les voit mal. Ils sont moins déterminés, moins déterminables que le reste, c'est vrai. Bon, on verra plus tard de quoi il s'agit.
Susanova.
D'accord, mais ça ne me dit pas l'histoire. Alors, que se passe-t-il?
Une femme qui rentre dans l'eau,
qui prend son bain.
Elle est dans la lumière.
C'est très centré sur elle,
Et on dirait que derrière, le personnage à droite est en train de lorgner ce qui se passe.
Les deux ont l'air, effectivement, de beaucoup regarder.
Des vieux concupiscents.
Voilà. Deux vieux personnages concupiscents.
Celui qui la tient regarde.
La femme nous regarde, oui. Elle nous prend en témoin. C'est quoi cette histoire? Suzanne est vieillard, d'accord. Mais qu'est-ce que ça raconte?
Disons qu'il y a une demi-messieurs, il voudrait bien lui faire sa fête, mais elle ne veut pas. Et il accuse elle d'avoir les avoir alléchés. Mmh. Et puis je ne sais plus qu'est-ce qui intervient, Dieu.
C'est une allégorie. Oui.
Donc, deux, Suzanne prend son bain, deux vieillards arrivent et essaient, ma foi, d'engager leur affaire. Et Suzanne, elle, n'est pas du tout d'accord. Donc, elle va tout faire pour qu'il la laisse tranquille. Et les deux vieillards, effectivement, très agacés par cette attitude de Suzanne, qui, après tout, devrait être bien contente d'avoir ces deux personnages qui se moquent d'elle, vont décider de l'accuser de les avoir séduits, n'est-ce pas, hein. Évidemment, il faudra un retournement pour que la vérité soit découverte. C'est quoi ce retournement? Pardon?
C'était Dieu qui intervient.
Ah, Dieu intervient. Il est pratique parce qu'il doit intervenir un peu.
Il y a une sorte de procès. Il arrive à confondre les vieillards en leur posant je ne sais plus quelle question. Et qui prouve qu'elle est innocente.
Donc il y a un procès de Suzanne, hein, oui. Et elle risque gros, hein. Elle risque gros. Et elle va réussir, toute seule, à retourner la cour. Ouais, il va y avoir un petit quelque chose qui va.
Mais quoi, on s'en rappelle.
Une sorte de happy end de finale.
Quelque chose qui est dans le tableau
Non.
Non, on ne peut pas le voir. C'est un personnage.
Non, c'est quelqu'un qui va intervenir.
C'est pas Moïse, non.
C'est pas Moïse. Non. Bon, on verra en ramassant les copies. Oui, vous disiez.
C'est une allégorie, alors c'est quoi?
C'est une sorte d'allégorie. Alors, c'est une scène de la Bible, hein, ça raconte cette Bible, l'histoire de Suzanne et Léa, qu'on appelle parfois la chaste Suzanne. Hein. Parce que Suzanne, alors vous avez raison, hein, Suzanne, c'est une jeune femme tout à fait convenable, tout à fait chaste. Simplement, un jour, deux vieillards concupiscents, comme vous le disiez, viennent pour la violer, tout simplement. Hein. Elle se débat. Le vieillard, qui pourtant lui demande de se taire, etc., hein, voit que c'est l'inverse. Alors, ils ont décidé de retourner la situation en leur faveur à eux et l'accuser. Effectivement, elle va être traînée devant un tribunal, elle va être jugée. Les vieillards vont dire à quel point c'est qu'une femme vraiment à la vie dissolue, etc. Et il y aura une intervention, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, qui va faire que l'affaire va se retourner contre eux. C'est clairement les vieillards qui vont être condamnés. Vous avez, alors c'est d'abord une histoire de la Bible, hein, qu'on trouve noir sur blanc dans la Bible, mais effectivement, c'est, comme toute histoire biblique, hein, quelque chose qui dit beaucoup d'autres choses. C'est donc une allégorie, je veux dire, d'abord de la justice.
Oui.
Parce qu'effectivement, elle est condamnée à tort, et finalement, les choses vont se rétablir. Hein. C'est aussi une allégorie autour, je dirais, à la fois de la rectitude de cette femme, qui est finalement une des grandes héroïnes bibliques. Hein. Suzanne, c'est une grande héroïne biblique. Hein. Mais c'est également, évidemment, une manière de montrer, de tenser l'idée de la concupiscence et du plaisir indigne de la chair. Enfin, vous voyez, il y a, en fait, c'est des, comme toute scène biblique, il y a des quantités de tiroirs, si vous voulez, qui sont à attirer et qui viennent dire des choses à partir de cette scène. Et vous avez bien remarqué, effectivement, que la figure de Suzanne était très, très en valeur. Il y a un ange qui vole.
Un vieillard à genoux.
Un animal. Un chien.
On dirait une famille. Une femme en noir.
Une femme en noir.
Deux femmes.
Une en noir, une non pas noire.
Et puis un autre, un jeune homme encore.
Et un jeune homme. Un vieillard par terre, un chien, un jeune homme et deux femmes. Et effectivement, un ange. Pardon.
Il part.
Il part, l'ange.
Une espèce de fumée noire.
Oui, il y a une fumée noire. Ouais. Il y a un paysage dans le fond.
Oui.
Il semble quand même apeuré un peu, ces personnages, même le chien, non?
Oui.
Apeuré.
Surtout, je ne sais pas.
Bah, c'est vrai qu'on ne voit pas un ange tous les jours. Quand même. Donc il y a de quoi être surpris, mais puisque la surprise, ce serait une crainte, peut-être.
Alors, c'est un bâtiment, une grotte
C'est un bâtiment, alors, un peu feuillu, un peu grotesque, hein, je vous l'accorde, hein. Mais c'est une sorte de maison un peu rustique. Mais effectivement, qui tient la maison troglodytique.
Et la fumée, c'est la fumée d'un sacrifice
D'un incendie ?
D'un incendie.
Un incendie, une guerre, un sacrifice ? Quand on regarde au bas, on ne voit pas grand-chose.
En même temps, il y a la forme un peu des ailes. Enfin, je sais pas, elle a une forme de forme quand même, cette fumée.
Ah, oui, vous trouvez que la fumée reprend la forme d'un ange, comme si on aurait la tête là, et deux ailes de chaque côté, ça, vous voulez dire. Oui, ça, c'est marrant, ce que vous dites, c'est pas faux.
Mais ce serait une fumée qui dégage.
Quand même la fumée,
un côté
terreur. Terreur ou angoisse.
Il y a un vague paysage
au fond avec un
arbre.
Oui.
Les couleurs sont plus
fondues
que.
Oui, on n'est pas dans le. Vous savez, la voie claire.
Non.
Hein, qui était évidemment beaucoup plus éclairé, beaucoup plus précis. C'est donc assez différent. Donc on serait avant ou après ?
Après.
Après.
Oui, il n'y a que la robe de l'ange qui ressort.
Oui, qui est vraiment très, très mise en valeur. Hein. C'est notre Suzanne, si j'ose dire. Bon, mais alors, à votre avis, qu'est-ce qui est en jeu ? Quel est là ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est l'ange qui vient les sauver de la fumée.
Pardon, c'est le ?
L'ange qui vient les sauver de la fumée qui arrive.
Ah, c'est ça. L'ange vient sauver cette famille, peut-être. Hein. Ouais. Du drame, de l'incendie peut-être.
Ouais, qui... okay. La fumée noire représente quelque chose, je ne sais pas.
Mm-hmm. Oui, les ténèbres.
Les ténèbres.
Ouais.
Il les a avertis de quelque chose. Mm-hmm.
Et alors, vous avez une idée en tête ? Non. Ah. Une scène biblique, assurément, mais laquelle ?
On est toujours dans l'Ancien Testament ?
Toujours. En fait, je vous montre que des scènes, je ne voulais pas que je vous dise la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau. Hein. C'est que des scènes de l'Ancien Testament.
D'accord.
Ouais. Pas d'idée particulière ? Eh bien, on continue.
Ça, c'est Lorraine. Hein.
Lorraine.
Il y a toujours la lumière qui arrive.
La lumière.
Voilà, elle est toujours tout le temps. Hein.
Toujours.
Hein. Toujours. Hein.
Oui.
Pas toujours. Aucun décor encore.
Oui, de la même manière, ça flotte un peu. On se demande où on est.
Un peu comme le Balthazar.
Pardon ? Dans le fond, il y a un personnage qui sort. Ouais, ouais.
Une serpente.
Et devant, il y en a une qui présente une coupe dans un coquillage.
Oui.
Elle est enceinte.
Elle est en train de dire, non ?
Elle sera enceinte ?
Oui,
Voilà, oui, le côté un petit peu. Les femmes un peu amples sont très valorisées. Hein.
La mode, parfois.
Et là, oui, on avait vu ça la dernière fois, vous rappelez. Hein. Ces robes avec des ceintures très hautes.
Sur la tour.
Ce genre de la tour. Hein.
Qu'est-ce qu'elle a ?
Il y a une inscription sur.
C'est pas trop ce qu'elle a à la main.
Un truc bleu, là.
C'est
les accords, c'est la
boudoir. Ah oui.
C'est la signature, ça.
C'est la signature. Avec la date. Si vous doutiez que ce soit Rembrandt, c'est marqué noir sur blanc, enfin jaune sur bleu.
Il y a encore les feuillets,
il y a les livres.
Oui, oui.
Il y a quand même une référence à quelque chose qui a été écrit. Quoi.
Oui, il y a une dimension de l'écriture.
Oui,
hein.
Il y a une présentation, une offrande d'une coupe extraordinaire,
oui.
Calice, une sorte.
Alors, qu'est-ce que ça pourrait être que ces filles ? Alors, vous avez bien noté, hein, au niveau de l'œuvre, ce clair-obscur, que, on ne quitte pas, sauf dans l'âme.
Oui.
Hein? Mais depuis, on a toujours, rappelez-vous Suzanne, rappelez-vous l'ange, etc. Ben, il y a toujours comme ça un clair-obscur, hein, une lumière qui met en avant certaines choses, qui est vraiment une sorte de leitmotiv qu'on voit tout le temps dans The Dawn. Hein. Vous avez également noté le côté un petit peu rondouillard de la figure. Alors, c'est vrai que la rondouillardise, notamment féminine, hein, elle est, vous l'avez dit, hein, valorisée. Hein, on pense à Rubens, par exemple, aussi. Hein. Mais enfin, ça veut dire aussi que, un peu comme vous l'avez dit pour le premier tableau, il y a une dimension réaliste. Hein, c'est-à-dire que cette femme-là, elle a un côté femme hollandaise du XVIIe siècle.
Voilà. C'est ça. On voit pas du tout la scène biblique. Hein.
Pardon ?
On voit pas du tout la scène biblique.
Non, elle a vraiment un côté presque même fermière hollandaise qui, il y a deux minutes, faisait du beurre. Quoi. Enfin, Ok. Moi, je trouve qu'elle a un côté très rustique. Je trouve que ses vêtements ont un côté, alors là, très tard, hein, ouais. Mais un peu comme si on lui avait flanqué des affûtures sur le dos, si vous voulez.
Je trouve
qu'il y a quelque chose de très dissonant, enfin, mais qui fonctionne merveilleusement bien, évidemment, hein, entre le côté très réaliste de cette femme, avec son double menton, hein, et ses vêtements, là aussi, un peu orientalisant. Hein, regardez son cafetan, là aussi. C'est pas très occidental. Hein.
Oui, les manches bouffantes, je sais pas, moi, voilà. Je la trouve plutôt guindée, hein, que rustique.
Alors, ah, vous la trouvez guindée?
Oui, très ouais. Guindée, parce qu'en fait, sa posture avec la main, justement, qui pouvait donner l'illusion qu'elle était enceinte, enfin, je sais pas, elle pose quand même sa main sur...
Oui, mais regardez, elle a un petit regard, un petit sourire, elle a l'air assez accorte, moi, je trouve.
Elle joue bien en haut.
J'entends rien du tout.
Le costume ne fait pas oriental.
Ah, je trouve que ça, oui. Avec cette espèce de Brandebourg. Mais les Brandebourg sont une chose qui vient de l'Est de l'Europe, notamment de Hongrie, etc., en lien avec, les Ottomans, etc.
Mais qui est-ce ? Quelle reine ?
Bon, alors on ne sait pas qui c'est. Bon,
oui, vous avez parlé de reine. Donc ce serait une reine.
Vu qu'on lui offre quelque chose.
Ah, il est vrai que ce que je continue à appeler cette fermière hollandaise, qui joue une sorte de rôle, vous avez dit tout à l'heure, hein, que souvent Rembrandt prenait par exemple sa femme comme modèle, qui n'est pas vraiment une reine biblique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire qu'il prend des gens, comme faisait Raphaël autrefois, quand Raphaël peignait une Vierge à l'enfant. Il prenait une femme dans la rue à Rome. Hein. Et bien, Rembrandt, pareil. Il ne prend pas du tout, il ne se dit pas, tiens, je vais présenter. Il prend, puis qu'est-ce qu'il fait, pouf, il la grime avec trois oripeaux, et ça vous donne une reine. Alors, une reine qui prend un peu la pose. Hein. Hein. Moi, si on me fait jouer un roi, je saurais avoir un côté digne. Hein. Et vous, tout autant, d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas sûr d'être un roi tous les jours. Pardon ?
Vous venez nous traiter tous de Manon.
Ah non, parce que j'ai dit que vous-même auriez été tout à fait capable de jouer le même rôle. Hein, voilà.
Et ce personnage dans l'ombre, est-ce qu'il a de l'importance ?
Peut-être.
Est-ce qu'il faut chercher ?
Voilà. Mais alors, cette espèce de reine, cette figure, parce qu'on a appelé reine, hein, donc je ne sais pas si vous avez une idée de qui ça peut être.
Non.
Non ? Ça vous dit rien ? Pardon ?
Non, on cherchait des... Il y a plein de personnages féminins.
Oui, il y en a, mais il n'y en a pas non plus.
Mais il y a Bethsabée.
Bien sûr, il y a beaucoup. Bethsabée. Est-ce que quelque chose peut nous faire penser à Bethsabée ?
Esther.
Est-ce que quelque chose peut nous faire penser à Esther ?
Là, non.
Non ?
Non.
D'autres ? Bon, en tout cas, vous venez d'en citer deux, Bethsabée ou Esther, qui, comme Suzanne, sont quelques-unes des grandes figures féminines, héroïques de la Bible. Hein. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qu'il faut classer, peut-être, dans cette série-là, des Bethsabée, Esther ou autres. Pardon ? Ah, Judith.
Oh, ben,
ah non, pas Judith. Bon, ben, pas Judith.
non, elle est
toujours une arme. Non, non, mais Judith, elle a toujours une arme.
Oui, oui, elle a une arme pour couper la tête.
Et là, elle n'a pas d'arme pour couper la tête.
Non, elle vient de faire du beurre.
Effectivement. Ah ben, il faut un couteau pour tartiner. Hein.
Allez, on passe au suivant.
Ah ben, son appui, là, l'autre jour, le songe de Joseph, on dirait qu'il fait pareil.
Ah, ça fait penser au songe de Joseph, mais sauf que si on est dans l'Ancien Testament, voilà. Ça ne colle pas.
Sauf que c'est l'Ancien Testament.
Ouais.
Oui, et puis il y a un trésor devant lui, c'est pas, ça
oui,
colle pas.
Oui, ça brille. Hein.
Alors, oui, c'est ce monsieur.
Mais il y a toujours un feu dans un arbre ou à gauche.
Il y a effectivement
un buisson
qui flambe.
C'est un buisson ardent.
Ah, ça fait penser au buisson ardent.
Il n'est pas monté avec tous ces
choses. Non. Non, puis il voit quelque chose dans le buisson ardent.
Oui.
Là, on ne voit rien, puis il est bien loin du buisson ardent.
Non, c'est toujours très sombre.
Ouais.
Assez flou à l'arrière.
Avec les lumières sur le trésor.
Ouais.
C'est un buisson.
C'est une ville, peut-être.
Qui flambe.
Là-bas, à l'horizon.
Ah, oui.
Ah, ça fait penser à Sodome et
Gomorrhe. Oui, j'avais l'impression qu'il est dans une foule.
Ouais.
Mais c'est quoi devant? C'est un casque, ce qui brille là?
Non. Ben, il y a
Il y a des choses dans ce.
Oui, voilà, il y a une sorte de grande coupe, si vous voulez, dans laquelle il y a une sorte d'aiguère, manifestement. Voilà.
Des
guerres.
Le tapis. Mmh. Il y a un joli tapis.
Un tapis.
En tout cas, il est fatigué.
Il est fatigué.
Il
dort, peut-être.
Il est triste.
Il est triste.
Il a fui.
Il a fui. Il est triste, il est fatigué.
Ça donne cette
épreuve. Ouais. Bon, c'est pas la grande forme, quoi.
Il est très âgé.
Ce serait quel genre de personnage? Personnage avant, vous y avez reconnu une héroïne biblique. Okay. Là, on sait déjà, parce que ça c'est le postulat de départ, qu'on est dans l'Ancien Testament. Alors quel genre de figure peut être ce personnage?
Un prophète.
Un prophète.
Intéressant, parce que les prophètes, c'est quoi les prophètes d'ailleurs?
C'est ceux qui annoncent l'avènement du Messie.
C'est ça. C'est ceux qui, dans l'Ancien Testament, annoncent quelque part le Nouveau Testament. Hein. Parité. C'est qui l'équivalent des prophètes en femme?
Les prophétesses.
Pardon?
Les prophétesses.
Ah non.
Les pitis.
Pas les pitis non plus. Ça, c'est plutôt dans la culture antique.
Non, grec.
Quels sont l'équivalent féminin des prophètes?
Ça, la Bible?
Ouais. Très important dans la culture occidentale. Hein. Vous les voyez en permanence dans les cathédrales romanes, gothiques, ils apparaissent partout. Pardon? Non.
On est dans le dôme de celle-là,
on est dans le.
Mais je ne peux plus retourner ça.
C'est ça.
À l'intérieur, mosaïque.
Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez. Ah oui, je laisse des choses en suspens. Hein. Si je dis tout d'emblée, il n'y a plus de suspense. Hein. Faut un peu de. Voilà. Encore orientaliste. Hein. Vous voyez que quand même, on retrouve vraiment toujours des choses qui sont récurrentes chez lui.
Non, on reconnaît mal son style là.
Oui, c'est vrai.
Ça fait vraiment débutant quoi.
Voilà. Oui, comme quel tableau par exemple?
Là, comme le tableau de là.
Oui, ça fait penser effectivement plutôt à des tableaux primitifs chez Rembrandt. Bon, c'est un tableau en plus de petite dimension hein, que je vous montre en très grand. Donc voilà, les proportions n'y sont pas. Alors ça représente quoi?
Des militaires, pardon.
Il y a des militaires.
Il fait chevalier avec son arme, il fait chevalier un jeune.
Il fait chevalier un jeune homme.
En tout cas, élégant, et puis proportionnellement à tout le reste.
Qui est-ce qui fait chevalier?
C'est pas le vaincu qui prend une âge.
Ah, le vaincu. Donc le vaincu serait là. À genoux. Et le vainqueur est là, quoi, qui...
Non,
le vainqueur, c'est
le monsieur. Ah, le vainqueur, c'est le monsieur en jaune.
Il le montre du doigt.
Oui, c'est vrai. Il montre du doigt le vainqueur. Ça, je fais le. Oui, il y a un côté bourgeois gentilhomme. Hein.
Oui,
oui.
Non, je
penserais.
Moi, je
ne
pense pas
que c'est
un
adoubement.
Donc, certains pensent à un vaincu qui est accueilli par ses vainqueurs, d'autres à l'adoubement d'un personnage.
Moi, j'irais plutôt un ermite qui arrive et qu'on va aller voir. Sa sagesse.
Il lui offre quelque chose.
Manifestement, il lui offre quelque chose. Ah, on voit pas très très bien.
Qu'est-ce qui tient l'épée?
Ah, si je vous dis, vous allez trouver.
Soit il l'offre, soit il le reçoit.
Non, il l'offre. Vous voyez, je vous en dis des choses. Celui qui est agenouillé offre au gros jaune oriental.
C'est symbolique, c'est quelque chose qu'il offre symboliquement.
Plus que symboliquement. Enfin, disons qu'il lui offre, il ne va pas pouvoir en faire grand chose, mais quand même.
Ça se complique.
Ça correspond à quelque chose.
Alors il y a le chien, il prend la lumière.
Pardon.
Il a l'air d'être très agressif, le chien.
Ouais. Oh, à vrai dire, on voit très souvent ça dans les peintures, ça donne une dimension un peu pittoresque, vous voyez, parce que la scène autrement serait un peu, un peu officielle. Hein. On est devant un roi qui reçoit quelque chose et des soldats, ça, pour, désamorcer un peu le caractère trop officiel de la scène. Le chien est là pour un peu... On en a vu un tout à l'heure. Oui, c'est dans votre tranche qui partait. Hein. Vous mettez un chien, ça donne tout de suite une... Ça débranche un peu la tension de l'œuvre.
Donc il donne l'épée à la personne en...
Ah, il y a une épée.
Mais l'épée...
Il y a une épée, effectivement.
L'épée, elle n'est pas tenue par le monsieur en haut, derrière?
Oui.
Non.
Elle est tenue par qui, cette épée?
Ah, ben, je vous pose la question.
Elle est disproportionnée.
Ah, c'est une grosse épée, elle est vraiment disproportionnée. Oui.
Roland Rousseau.
Ben, c'est pas très biblique, mais
c'est
pas
très biblique.
On peut...
Pas tout à fait à la même époque.
Ouais, non.
Le patriarche bleu.
Ah, oui. Mais il a l'air de regarder ce qu'on offre au gros jaune.
Non.
Titre du tableau.
Le gros jaune.
Le petit jaune.
Bien. Ben, ça patine. Hein. Bon, allez, on va regarder quelque chose de plus.
Ça patine dans la
Là, c'est facile, le sacrifice d'Isaac. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de très romantique? Donc là, vous avez trouvé, là, c'est facile. Hein. Vous avez qu'est-ce qui est très caractéristique de Rembrandt dans une œuvre telle que celle-là? La photo n'est pas extraordinaire.
La lumière.
Toujours ce choix d'une lumière très clair-obscure. Quoi d'autre encore?
La composition.
En diagonale encore.
Très, on va dire très savante, c'est très construit mais très savant.
Plusieurs niveaux.
Ouais.
Et puis,
quoi encore?
C'est plein de mouvements aussi.
Oui. Beaucoup de mouvements, effectivement.
Il n'y a pas beaucoup de couleurs.
Non, exactement. Toujours ce côté assez sourd.
Sauf la clarté du corps. Oui, la clarté du corps.
Oui, voilà, il y a vraiment la lumière privilégie certains éléments.
Et la barbe blanche.
Oui. Justement, en parlant de la barbe blanche, qu'est-ce qui est aussi très caractéristique là?
Un certain flou dans le.
Oui, c'est vrai. Rembrandt, surtout plus on avance, plus il y a sfumato.
Il y a un arrière-plan.
Oui. Oui, donc on est dans une œuvre tôt, tard, milieu.
Tard.
Non.
Non.
Pas vraiment milieu.
Plutôt milieu. Un peu entre ce qu'on a vu et avant d'autres. Okay.
Il est le seul peintre de ce tableau.
Parce oui. D'accord. Et puis, genre, ce personnage barbu, là.
Je la trouve plus moderne que les
autres. Qui d'ailleurs
il
c'est Isaac.
Non, c'est Abraham.
Ah. Isaac, c'est le gamin.
Oui, avec ces personnages barbus, on les retrouve un peu dans chaque tableau.
Ouais, ouais. Ouais. Et justement, ces personnages barbus, quelle est leur caractéristique? Vous l'avez dit d'emblée, d'ailleurs, tout à l'heure.
Ils ressemblent à
Rembrandt. C'est vrai. Mais au-delà de ça, alors c'est pas forcément du jour roman, il s'est pas non plus autoportraituré partout, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement du fait que ce soit finalement très proche de...
Ben, c'est la lumière qu'il y a sur,
oui.
Sur son visage.
Mais ce personnage, décidément, est-ce que...
C'est un personnage réel.
Voilà, c'est ça. C'est toujours c'est du réalisme. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez de classicisme. Hein. Mais le classicisme, justement, c'est pas du tout réaliste. Hein. Pensez à Poussin, qui est le peintre classique. Poussin, il vous présente des personnages bien propres, tous un peu, j'allais dire, idéaux. Là, c'est pas du tout ça. Là, Rembrandt, ils vont des gens avec des barbes mal taillées, des rides, etc. Mais pas du tout les choses qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez à Le Sueur, qu'on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez? Bah, c'est pas du tout ça. Hein. Là, on a quelque chose qui est une espèce de réalisme bien marqué. Hein. Bien. Parfait. Alors, on continue.
La lutte de Toby et l'ange.
La lutte de Toby et l'ange.
Oui, c'est possible.
Bon. Oui. Ok. C'est quoi ça?
Je pas bien l'histoire. Enfin, je sais qu'ils se sont battus.
Ils se sont battus. Ça vous rappelle peut-être un autre exemple de la même scène par un peintre illustrissime? Je crois.
Mais
Michel-Ange.
Non, Raphaël.
Raphaël.
Non, un des deux. Il y a pas une chose très tardive au 19e.
Très tardive au 19e.
Moreau.
Pardon.
Gustave Moreau. Redon.
Redon.
Gustave Bordeaux. Gustave Moreau.
Moreau.
Il me semble qu'il a fait. Et tout à l'heure, c'était les Sibylles.
Tout à l'heure, c'était
les Sibylles.
Ah, bravo, les c'est les Sibylles.
C'est revenu.
Les femmes prophètes, c'est ce sont les Sibylles. Par contre, je vous ai dit prophétesse, non, on peut dire que quelqu'un, c'est une prophétesse. Non. Mais les Sibylles, c'est dans l'Ancien Testament.
Dans le Nouveau Testament, on parle de prophétesse.
Bien sûr, sûrement. Et puis, le mot prophétesse existe, d'ailleurs. Hein. Mais les Sibylles, vous savez, il y a la Sibylle de Cune, la Sibylle de Tibur, etc. Les Sibylles sont celles qui, dans l'Ancien Testament, comme les prophètes, annoncent le nouveau. Ça y est, non, mais ok,
c'est bien.
On va retrouver les Sibylles, c'est bon. Bien, bien oui, donc, ouais, je vous disais, peut-être que vous avez vu la même scène par un peintre ultra célèbre qui a représenté la même chose, il y en a d'autres, mais il y en a un vraiment célébrissime hein, qui a représenté ça aussi. Certains d'entre vous, en effet, en ont entendu parler, ou en ont parlé eux-mêmes d'ailleurs. Non, ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce sera la lutte de Toby et l'ange, c'est ça. Fin, début, milieu, la carrière de l'artiste.
C'est bizarre, ben, moi j'ai l'impression que le tableau n'est pas fini.
Un tableau pas fini, qu'est-ce qui vous donne cette impression?
Par exemple, les ailes de l'ange sont vraiment
perdues
dans
le fond.
Elles se perdent dans le fond.
Ouais,
donc un côté un peu indéfini, comme ça. Hein. Ok.
C'est sur toile ou sur quoi?
C'est sur toile.
Ah oui.
Il y a toujours cette côté de clarté sur le vêtement.
Ouais. Ça, il nous a habitués à faire des coups de projecteur comme ça. Hein.
Oui.
Bien. Allez, on continue. Je vais un petit peu plus vite parce que faut qu'on arrive. Turban, décidément. Hein. Il y en a. Hein.
Non.
Toujours ce côté, vous voyez, c'est en voyant des œuvres qu'on arrive à comprendre la manière qu'un artiste a peint. Si on bouffe du Rembrandt, au bout d'un moment, bah, on voit ce que c'est qu'on manque. Hein. Là, vous avez toujours la même chose, l'éclairage, le réalisme. Regardez la tronche de ce personnage. Vous voyez, c'est pas une figure comme ça, un peu parfaite. C'est un personnage vraiment traité de manière réaliste, avec un œil plus ou moins ouvert, l'autre pas. Il a vraiment pas la tête de l'emploi, si vous voulez.
Il écoute
de la musique.
Il a un œil,
voilà, pas très ouvert. Mais et l'œil est mauvais, oui. Pardon, il y a une lance. Une sorte de lance. Non, il n'y a pas de fer de lance. On va dire que c'est un bâton, peut-être.
Oui, c'est un bâton.
Voilà, c'est peut-être plutôt un bâton de commandement, effectivement. Ces bâtons de commandement sont plutôt plus petits et plus. Bon, tu me dis sens. Pour une fois, il y a quelque chose de maigre dans l'œuvre de Rembrandt.
C'est vrai
que
ça
ressemble
un peu au gros jaune,
hein. Au gros jaune, oui, absolument, absolument.
Oui, mais là, on n'a pas vraiment une scène, j'ai l'impression qu'il prend la pause et que c'est un truc théâtralisé.
Ah oui, ben c'est très, très... Vous avez raison, il prend la pause.
Je ne sais pas encore, un rideau, c'est
en... Il y a un rideau, effectivement.
Sa main droite est très nette.
Pardon ?
Sa main droite est très nette, et la gauche, elle est vraiment très floue.
Oui, oui. Et puis vous avez dit qu'il écoutait de la musique, hein ?
Oui.
Ça vous dit quelque chose ?
Ça peut être le roi David.
Le roi David était effectivement connu.
Il en faisait lui-même.
Alors le roi David, bah oui, donc là il en écoute.
Oui.
Ah.
Donc c'est peut-être pas le
chat. Ah. Oh. Je suis bien embêtant. Hein, mais... Je suis contrariant. Hein. Pardon ?
Non.
Bien. Allez, on continue, parce qu'on en a encore quelques-uns à voir. Hein.
Oh là là, là. Il nous en a réservé.
Là aussi, c'est un petit tableau. Alors, agrandisse.
Oui, mais c'est qu'une ébauche.
À la fois, oui et non, parce que Rembrandt aimait bien, si vous voulez, aussi ce genre d'œuvre, vous voyez, un peu troussé, comme ça. Enfin, voilà. Le côté, ce côté non fini, tant qu'il l'est, en fait.
Il y a trois anges.
Dont un qui est très éclairé.
Là, décidément, Rembrandt, il nous habitue à ça.
Là, c'est presque trop.
Ouais.
Qui sont reçus.
Ok.
Il y a un couple. Ah, c'est Abraham et Sarah. Ah, c'est quand les anges viennent le voir.
Abraham et Sarah, il y a trois anges qui viennent le voir.
Et Sarah qui est dans son.
Qui est dans la.
Voilà, elle est là-bas. Elle prépare ce qu'il faut.
C'est pas une tente.
Il n'y a pas que les trois anges qui viennent vous voir toutes les 30 secondes.
Sauf d'habitude, c'est sur une tente. Et là, ça fait pas.
Oui, normalement, c'est une tente. Mais bon. Et justement, qu'est-ce que ça montre, le fait qu'elle sorte d'une maison ? C'est parti de quoi qu'on a déjà vu 10 fois, vu ce genre.
Naturaliste.
C'est ça, naturaliste. On est toujours dans ce réalisme. Là, il fait sortir Sarah d'une fermette hollandaise, si vous voulez. On n'est pas du tout devant une Bible éthérée, etc. On est une sorte de réalité. C'est pas non plus pour n'importe quelle raison. Pourquoi est-ce que Rembrandt, finalement, il met ces personnages bibliques, hein, qui ont vécu, semble-t-il, il y a des milliers d'années, pourquoi est-ce qu'il les met comme ça, les met réalistes dans ces tableaux ?
Pour montrer que c'est intemporel.
Voilà, pour montrer le caractère intemporel, et je dirais même plus.
Que c'est toujours valable.
C'est ça. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc vieillot qui ne nous concerne pas. C'est un truc qui concerne les gens du 17e. En mettant ça dans des décors et avec des gens que l'on peut voir dans la rue, c'est de manière à montrer qu'on n'est pas là devant une scène qui ne concerne personne, mais une scène qui nous concerne, nous, gens du 17e, quand on regarde. Très bien. Allez.
Un banquet.
Il y a un indice qui doit vous dire de quoi il s'agit.
C'est
des hommes sur la droite qui font,
je sais pas quoi. Des hommes qui
discutent. Ils comptent sur leurs doigts.
Ils comptent sur leurs doigts.
Il y a le même genre de femme que tout à l'heure.
Il y a un détail très réaliste.
Il y a un couple qui s'en passe.
Oui. Parlez de ça. Oui, c'est une sorte de noce. Oui, il y a un couple qui s'embrasse là, oui. Puis il y en a un autre qui aimerait bien s'embrasser.
Ah oui. Pas lui, hein? Tout au moins. Oui.
Mais il y a, encore une fois, il y a un détail très, très vériste. Enfin.
Il y a du raisin dans les couples.
Oui.
Et à droite, c'est une harpe.
Pardon?
À droite, c'est une harpe.
Je crois.
Oui.
Ici, oui, oui, c'est ça.
Oui, oui, oui.
Donc, un festin, un repas. Avec qui?
Si c'est un mariage.
Je m'en dirais la même dame que tout à l'heure.
Ça fait penser à la même dame que tout à l'heure.
Oui,
oui,
oui.
Oui, oui. Oui, me fait penser à. C'est marrant parce que tous les vieillards ont la même tête, toutes les dames, ces reines, entre guillemets, ont la même posture. Toutes ces crémières sont toujours les mêmes.
Et elles regardent le spectateur.
Elles regardent le spectateur, oui. Pourquoi d'ailleurs? Suzanne, déjà tout à l'heure.
Oui, d'ailleurs la lumière est mise sur elle.
Sur elle.
Parce que, donc,
pas que d'ailleurs.
Pas que sur elle, non.
Ouais.
Pour prendre un témoin.
C'est ça, tu viens de nous prendre un témoin. Hein. Ça aussi, ça participe du... C'est pas une peinture accrochée sur un mur, tiens. On est pris à témoin, on est regardé. On entre dans la peinture.
C'est un mariage, elle
n'a
pas l'air enthousiaste.
Non, parce qu'on n'a
plus son bagage. Donc elle serait mariée contre son gré?
Non, c'est un festin, mais c'est pas un mariage.
Non, c'est pas un mariage.
Est-ce qu'elle
est seule? Est-ce que son mari est celui qui est en train de comploter à côté avec les deux?
Ah, peut-être. Non. Bon. Eh bien, on verra.
Il y a une espèce de coupe devant.
Il y a une coupe.
Avec un serpent, lui dit monsieur Hervé.
Ah là, oui, mais c'est, il y a effectivement quelque chose qui s'enroule, mais ça fait partie de l'orfèvrerie. Si. Allez, je passe un peu plus vite pour qu'on ait le temps de renverser les copies. Là aussi, c'est une peinture petite.
Ouais.
Et alors, c'est quoi? Donc, il y a toujours pareil. Hein. Il y a quand même, alors même si là, c'est, il y a quand même un. Un côté clair-obscur, hein.
Oui, oui.
Il y a toujours ce côté un peu oriental, etc.
Les couleurs sont véridiques?
À mon avis, plus ou moins. Bon, c'est un peu rougeau.
Bon, il y a le turban encore.
Le turban.
Le visage de la femme.
Les turbans.
La femme a une
drapée, des tissus.
Sur la tête, elle a quand même une couronne. Il y a beaucoup de tissus.
Le personnage central tient. Quelque chose,
bâton,
une sorte de sceptre.
Une sorte de sceptre. Voilà, un bâton de commandement, là.
Oui, oui.
C'est visiblement lui, le chef.
Oui.
Ça, c'est très, ça a l'air très royal. D'ailleurs, on a l'impression de devenir une couronne sur son...
Oui, il y a
une
turban.
Sur son turban.
Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde un plateau sur lequel
oui, il y a un plateau. Oui. Et elle tend les mains au-dessus du plateau.
Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est...
Il joue aux cartes tranquille.
On dirait qu'elle lit l'avenir ou quelque chose. Parce qu'elle lit sur le plateau, je ne sais pas, elle fait avec ses mains, on a l'impression qu'elle fait une incantation.
Ok.
Ça pourrait pas être un mariage?
Un mariage encore? Dites donc, on se marie dans les œuvres de Rembrandt. Hein. Allez, on va voir après le mariage.
Bézabé.
Ah, bah, bon, on n'a pas de problème. Bézabé, c'est quoi? C'est qui?
C'est la femme de David.
La femme de David.
Avec okay. Qui il a piqué à son meilleur général.
Eh oui, qui l'a piqué à son meilleur général. Ça, c'est quand même.
C'est pas sympa.
Pas ouais, c'est pas sympa. D'ailleurs, il va le payer.
Oui.
Hein? Bézabé, super, parfait, bien.
Justement, c'est pas là où elle reçoit la lettre comme quoi. Elle doit se rendre vers
le roi vers David.
Il n'y a plus de
turban.
Non.
C'est
très époque-époque. Ouais. Là, vous voyez, vous voyez là, les influences orientaux, là, on les a plus. Hein. Pardon. Ouais.
Et c'est encore biblique.
Oui.
C'est un truc là.
Mais c'est dual, si j'ose dire. Ouais, c'est un couple.
C'est vraiment un couple, parce qu'il a l'air d'être beaucoup plus âgé que la
jeune. Ah, ça, c'est des choses qui arrivent.
Ça, c'est encore pas. Ils ont l'air tristes, hein.
Oh, elle a l'air assez contente, il a l'air assez...
Oh,
contente.
Oui, oui.
Ah, ils savent se tenir, bien sûr. Oui, enfin, on est chez des gens qui ont élevé.
Et le geste est intime, quand même.
Le geste est intime.
C'est intime, quand même.
Très intime. Donc c'est un couple.
Oui.
Et en l'occurrence, c'est légitime.
On espère.
Bon, bah oui, je ne vous passerai pas des choses. C'est pas mon genre du tout. Hein.
Le problème, c'est que pour comprendre qui est le couple, ils sont vêtus comme au XVIIe, on a
oui.
du mal à les imaginer.
Ah, mais où est-ce qu'ils sont vêtus vraiment comme au XVIIe, ce couple-là?
Ça manque d'accessoires, donc qu'on comprenne la scène.
Elle tient un verre, non?
Pardon?
Elle tient un verre?
Non,
elle tient peut-être quelque chose, mais non, c'est pas. Oui, non, 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 elle tient rien.
Elle doit tenir un bijou, pas une chaîne.
Ah oui, c'est bijou qui roule.
Mais pourquoi c'est si 17e? Pourquoi ces personnages, elle vous a frappé tout de suite? Vous allez dire, ah,
oui,
ça.
Oui,
mais parce que les visages sont très naturels.
Très naturels. Et pourquoi ils le sont d'ailleurs?
Parce
que.
Il a pas les commanditaires.
Voilà, ce sont des portraits.
Voilà.
Ah,
sont des portraits.
Ah, oui, d'accord.
Mais quoi
biblique.
Pardon
oh.
Mais c'est quand même
biblique.
Bon, on a vu ça déjà maintes fois. Hein.
Oui, oui.
On a vu maintes fois des scènes de l'Ancien, du Nouveau Testament, qui sont jouées par des gens qui se sont fait pour traiturer. Oui, oui. Vous pouvez, au XVIIe, dire à Rembrandt, dites donc, vous ne pourriez pas me représenter en Moïse, ça?
Oui, oui, ça.
C'est pas un problème, ça.
Ce serait pas Adam et Ève.
Ah, Adam et Ève. Un peu habillés, probablement.
Ils sont habillés, donc c'est pas en clair.
Allez. On y va pour continuer. Hein.
Ah bah encore le joueur de l'art.
Ah voilà.
Avec c'est pour tout coup, la même scène que
la même scène que tout à l'heure.
Ouais, ouais.
Mais un peu plus tard.
Oui, oui. Hein, il devient dans la ville.
Ouais. Absolument. Donc c'est la même scène, un peu plus tardive que tout à l'heure. Alors on va voir laquelle plus tard.
Elle montre le lit vide. Ou alors elle
n'a pas y
aller.
Ouais.
Elle a un mouvement de recul un peu.
Ah ouais. Elle est véhémente. Hein.
Après le mariage, c'est peut-être la nuit.
Il y a le jeune homme qui attend, il a l'air de vouloir se coucher.
Ouais, non. Ça vous rappelle rien.
Ça peut être ben, le premier tableau où on a vu Suzanne Aubin, quoi.
Ah, toujours l'affaire Suzanne Aubin, Suzanne avec les deux vieillards, dont l'un a rajeuni. Mais enfin bon, voilà.
Ouais, ouais.
Un artiste, non. Après tout. Non.
C'est la position qui. Enfin, les attitudes qui faisaient penser à ça.
Ça vous rappelle pas quelque chose qu'on aurait vu il n'y a pas si longtemps que ça.
Ça dit Job.
Job.
Mais Job, j'étais malheureux.
C'est un tas de fumier un peu confortable.
Ouais,
c'est
un peu bien taper, oui.
Ouais.
Il a le
turban. Être...
Ça peut être la femme de Putiphar qui demande à Joseph de venir coucher avec elle et puis que lui ne veut pas.
Rappelez de ça.
Oui,
ça on en a parlé encore récemment.
Oui, mais sauf que là, on voyait qu'il partait en courant, que là, on se demande s'il va
y avoir un
bah, parce qu'il ne veut pas.
Il ne veut pas, mais après.
Après, il va être accusé.
Il va être accusé.
Elle va l'accuser.
Eh bien, c'est ce que vous vouliez.
D'accord.
Ah oui.
Ah, elle est en train de
la je rappelle que Joseph, et, qui a été, vous savez, abandonné par Cérès, est devenu un des proches de Pharaon.
Oui, ouais.
Et la femme de Pharaon, Putiphar, pardon, le Pharaon s'appelle Putiphar. Et la femme du Pharaon va trouver que Joseph est assez à son goût. Elle va donc vouloir coucher avec lui, pour être clair. Bien. Mais Joseph n'est pas du tout d'accord. Il n'est pas du tout question qu'il trahisse son maître. Donc il va se refuser à Putiphar. On a vu déjà des choses comme ça. C'est très, très, très fréquemment présenté. Hein. Et la femme de. Il va se refuser à la femme de Putiphar. Et la femme de Putiphar est tellement furieuse que Joseph se soit refusé à elle qu'elle va l'accuser de l'avoir séduit. C'est le même coup que Suzanne et Lila. D'accord voilà. Très bien, vous avez trouvé. Et là, est-ce qu'on va trouver? On a presque fini. On ramasse les copies dans 2 minutes.
Un assassinat.
Ouais, là, c'est un assassinat. Hein.
C'est encore plus inhabituel, ça.
Encore plus inhabituel. Alors ça veut dire on a un clair-obscur, de la lumière, du réalisme. Vous voyez tous les ingrédients hein, qu'on met dans un milkshake et qui donnent du roman. On a l'Orient en premier plan. Mais là aussi, il y a un détail.
Pas sans son.
Pourquoi ?
Il tient les cheveux. Elle tient les cheveux.
Très bien, très bien.
Ouais.
Vous avez vu qu'elle tient les cheveux, et pas que les cheveux d'ailleurs.
Ah, puis elle tient aussi la... Pour couper ses cheveux, les ciseaux.
Les ciseaux, les forces. Pour couper les cheveux de Samson. Hein. Oui. Pourquoi elle coupe les cheveux de Samson ?
Pour
que Samson tenait sa force de ses cheveux. Et donc, pour capturer Samson,
Dalila,
pas qu'on voit avec Dalida, va couper les cheveux de Samson, va d'abord séduire Samson, l'inviter à un festin, etc. Plus ou moins, d'ailleurs, essayer de se marier avec lui. Et dans son sommeil, après une nuit d'ivresse, elle va couper les cheveux de Samson. Vous avez vu Saint-Saëns, Samson et Dalila, vous connaissez tout ça par cœur. Et voilà la scène, effectivement. Samson a les cheveux coupés, il n'a donc plus de force, on est même en train de lui crever les yeux, vous voyez. C'est horrible. Hein. Allez, dernier, qui n'est pas le plus simple. Et après, on corrige.
Un vieillard qui bénit ses enfants.
Oui. Un vieillard qui bénit des enfants.
Ses petits-enfants, peut-être.
Peut-être ses petits-enfants. Qui seraient les enfants de qui alors ?
Du couple derrière.
Voilà. Un vieillard qui bénit les enfants du couple. Le nom du vieillard ? On n'insiste pas. Alors. On regarde maintenant, j'ai remis la diapo dans le bon ordre de la chronologie rembrandtesque. Et on commence par notre fameuse âne, qui est d'ailleurs une ânesse. L'ânesse de Balaam, vous aviez raison. Je vous raconte en deux mots l'histoire, enfin en gros l'idée. Hein. Balaam est une sorte de devin, de mage, qui est appelé par le roi de Moab, qui le s'appelait Balak, je crois, parce que le roi de Moab veut, destituer la population, enfin les Hébreux qui sont sur son territoire. Hein. Il veut donc que Balaam vienne pour faire une sorte d'anathème contre eux. Hein. Alors Balaam, il va dans la capitale où est le roi de Moab. Simplement, la messe sur laquelle il est, elle veut un moment plus avancé. Hein. Ça, c'est un signe du ciel. Elle ne veut pas que Balaam aille faire ce que le roi de Moab veut que. Alors, Balaam, il tape sur son ânesse, elle ne veut pas avancer. Vous savez, quand les ânes ne veulent pas, j'en ai deux. Je sais ce que c'est. Hein. C'est compliqué. Bien. D'ailleurs, un ange va venir qui va justement insister auprès de l'ânesse pour qu'elle n'avance pas davantage. Et au prodige, l'ânesse va se mettre à parler à son maître en disant que ce qu'il fait n'est pas du tout juste. Il n'a pas du tout à la tête. Donc, vous voyez qu'elle est en train de s'adresser à lui. Finalement, devant cette scène, ce prodige, un âne qui vous parle, ça ne marche pas tous les jours, hein. Ben là, il va être tout à fait surpris, et va soudain comprendre, face à ce prodige, l'ange qui vient empêcher avec l'âne d'aller plus loin, l'ânesse qui s'adresse à lui, va comprendre qu'il se passe quelque chose. Quoi. Et il va comprendre que l'ordre que lui a donné Balak, le roi Moab, n'est pas du tout un ordre qu'il doit mettre en œuvre. Donc il va aller voir le roi, et au lieu de destituer la population juive, il va faire l'inverse, il va la bénir. Donc vous voyez, c'est un héros, le sort Balaam, qui au lieu de suivre l'injonction destructrice du roi de Moab, va au contraire s'élever contre et va bénir les Hébreux. Donc ça c'est l'épisode important. Autun, quand vous allez devant le tympan, à droite vous avez la messe de Balaam. Donc c'est un thème qui est très souvent présenté, je crois qu'on le voit à Bethléem aussi, c'est un thème très souvent présenté. Ça, si je vous avais dit que c'était une tête qui était là, on la devine. Hein. C'est David qui présente à Saül la tête de Goliath. Rappelez David, c'est un petit berger, hein, et qui a tué Goliath, qui était un énorme bonhomme. Hein. Et puis après avoir tué avec une grande épée, parce qu'effectivement, vous avez vu que l'épée était disproportionnée. C'est que David, c'est un petit berger. Hein. Alors il tient l'épée, il a la fin à la tenir pour décapiter Goliath. Ben c'est David qui montre la tête qu'il a coupée de la tête de Goliath. Voilà. OK ? Thème également très souvent présent. Là, c'est bel et bien, vous aviez raison, David qui joue de la harpe. David, effectivement, va devenir roi après Saül. Hein. Ah. David était un petit berger, etc. Saül était un grand roi, premier roi d'Israël. Et il était un roi très guerrier, etc., mais aussi très, comment dire, il agissait avant de réfléchir. Saül, c'était un roi un peu désordonné. Hein, voilà. Il n'y avait qu'une possibilité pour le, j'allais dire, pour le calmer, c'était que David joue l'arc. Et c'est ce que vous voyez, le jeune David, qui n'est qu'un berger, hein, est en train de transformer notre Saül, une espèce de berger ventripotent qui est prêt à tuer tout ce qui bouge, hein, avec David. Ah, il arrive même à faire pleurer parfois Saül. Ça, c'est pas donné. Là, le personnage que vous voyez, c'est un prophète, c'est Jérémie, qui se lamente sur les destructions de Jérusalem. Vous avez vu que dans le fond, une ville brûlait. C'est bien. Bel et bien, vous aviez trouvé, hein, vu les éléments. Alors là, vous aviez vu que c'était une héroïne biblique, c'est bel et bien Judith. Vous vous rappelez, hein, Judith, dans la ville de Béthulie, elle sort de la ville de Béthulie encerclée, elle va dans le camp d'Holoferne, elle va séduire Holoferne. Holoferne, d'ailleurs, lui proposait un festin, parce qu'on séduit pas Holoferne comme ça, il faut un petit peu une mise en bouche. Hein. Elle va séduire Holoferne, ce que vous avez là, c'est le banquet que Holoferne donne à Judith. Vous avez vu que dans l'ombre, il y avait quelqu'un, c'est la servante de Judith. C'est la même qui va, après que Judith ait couché après Holoferne et qu'elle lui ait coupé la tête, permettre de mettre la tête dans le sac et que Judith retourne dans mes yeux.
Donc, comment veux-tu qu'on devine, on ne voit pas Holoferne.
Pardon ?
Comment veux-tu que Judith...
Ah ben,
oui. Voilà. Et puis on voit pas Judith.
En fait, vous aviez trouvé l'essentiel, c'est-à-dire que c'était une héroïne biblique. Hein. Avec Rembrandt, il y a quelquefois des choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes à voir, mais vous aviez bien vu, j'allais dire, le personnage générique qui était là, c'est une héroïque biblique. Ça pourrait être Esther aussi. Hein.
Oui.
Je trouve que c'est Holoferne. Et la figure de la servante dans le fond. Alors là, Isaac, vous aviez bien vu. Ça, vous avez tout à fait vu. C'est effectivement l'aveuglement de Samson. Hein. Donc vous avez trouvé, parfait. Voilà, on ne revient pas dessus. Ça, pour le coup, c'est Tobie. Vous savez, Tobie a un père qui, je crois, d'ailleurs, s'appelle Tobie aussi, avec un T, qui a perdu la vue. Et l'ange du Seigneur va lui dire que pour redonner la vue à son père, il doit suivre l'archange Raphaël. Alors Raphaël et Tobie vont aller de ci et de là. Et un jour, l'archange Raphaël va montrer à Tobie un poisson. Il lui dit, prends le poisson, tire le fiel, amène ça à ton père, mets le fiel sur les yeux de ton père, il va retrouver la vue. C'est ce qu'il fait, il retrouve la vue. Et là, vous voyez Tobie qui est revenu, qui a mis le fiel sur les yeux de son père, qui a donc recouvré la vue. Voilà l'épouse de Tobie et la femme de Tobie, un chien, parce qu'encore une fois, ça dédramatise un peu la chose, et l'archange, qui maintenant qui a fait son boulot, repart. En fait, vous êtes beaucoup, vous avez beaucoup regardé la fumerole, et qui est là comme une nuée pour l'ange qui retourne au ciel. Hein. C'est vrai que ce soit sombre, chez Rembrandt, les fumerolles sont toujours sombres. Donc ça, c'est l'archange Raphaël qui quitte la ville de Tobie. Ça, c'est également le festin de Samson. La chose qui était le détail, c'est lui, vous voyez, Samson avec des cheveux très longs. En fait, c'est Samson, parce qu'il y a une sorte de noce qui est organisée entre Samson et Dalila. En fait, c'est la scène qui est avant celle que nous avons vue, même si ça a été peint après. D'accord ? Ensuite, vous l'avez trouvé, c'est Abraham et les trois anges, bravo. Suzanne et Vieillard aussi, pas de problème. Bethsabée également, finalement vous avez tout trouvé, moi j'ai plus rien à dire. Hein. Et vous avez même trouvé Joseph et la femme de Putiphar, pas de problème, tout est parfait.
Vous pouviez nous préciser comment s'en était sortie Suzanne ?
Ah oui, en fait, au moment du procès, il y a Daniel, qui n'est alors qu'un enfant, mais qui deviendra le prophète que l'on sait, hein, qui va intervenir. Et qui va, en fait, qui avait plus ou moins assisté à la scène, et qui va venir, qui va témoigner en disant que c'est pas du tout comme Yviard lui dit ce que s'est passé, mais comme Suzanne. Et en fait, la cour, tu sais, va dire, mais enfin, cet enfant, il a sûrement raison, parce qu'un enfant peut pas. Et c'est ce qui va complètement renverser la chose. Et en plus, il va s'exprimer avec tellement d'éloquence, c'est un prophète, même s'il est petit, et tellement de réalité que la vérité va éclater. Voilà. Donc ça, c'est Joseph et la femme de Putiphar. Ça, c'est Jacob qui peignit les fils de Joseph, son fils. D'ailleurs, la bénédiction va être... En fait, Jacob, qui était touché de cécité, va bénir le fils le plus jeune avant le fils aîné. Ce qui va créer après toute une série de problèmes. Oui, absolument. Là, c'est Jacob et l'ange. Hein, parce que dans la Bible, il y a un texte très étrange qui dit qu'un moment, Jacob, avec sa famille, émigre. Et un moment, il passe près d'un fleuve. Tout le monde le passe sur Jacob, qui voit devant lui un ange. Et il va pendant une nuit entière lutter avec l'ange pour ne pas passer ce fleuve. Et finalement, à l'aube, l'ange disparaît et il va continuer sa route. C'est un texte extrêmement étrange, très poétique, très beau, mais qui est quelque chose qui peut être interprété comme, si vous voulez, le fait qu'il faut lutter pour trouver la vraie voie. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, la voie de la religion. Hein. En tout cas, c'est une des possibilités d'interprétation. L'artiste ultra célèbre qui a présenté ça, c'est Delacroix. Vous avez raison. L'artiste du 19e, hein. À Saint-Sulpice, à Paris, j'ai parlé de ce décor-là dans un cours à l'UTB. Hein. Il y a une grande peinture de Delacroix qui présente la même scène. Hein. Moïse établit la loi, vous l'avez trouvée. À nouveau, David qui joue la harpe devant Saül, vous voyez que ça a été très présenté. Et là, c'est Esther. Là aussi, on en a parlé à plusieurs reprises. Hein. C'est que Esther est la femme d'Assuérus. Assuérus, c'est un grand souverain assyrien. Il marie Esther, qui est une princesse juive. Et un jour, Esther découvre que Haman, qui est le ministre d'Assuérus, prépare la destruction du peuple juif. Or, Esther, voyant ça, va essayer de sauver son peuple en allant voir Assuérus. Ce qui est très compliqué, parce que Cyrus est un grand roi, il ne va pas le voir comme un
ministre. On l'a invité à manger.
Voilà. Et elle va inviter Assuérus à manger. L'invitant, elle s'évanouit. Hein, l'épisode de l'évanouissement d'Esther, elle est très souvent présentée. Hein. Tout ça, c'est on l'a vu, vous rappelez. Tout ça, c'est des codes de la peinture qu'il faut absolument avoir en tête. Hein, parce que, voilà, dès qu'on les a en tête, on les reconnaît. Hein. Et elle va donc inviter Assuérus. Et au moment du repas, Esther va parler à Assuérus des manigances d'Aman qui est ici, et elle va confondre Aman, le ministre, qui va être pendu. Voilà. Donc c'est une autre héroïne biblique. Elle a sauvé son peuple, comme Judith par exemple. Et là, c'est un tableau qu'on appelle souvent la fiancée juive. En fait, c'est un double portrait, vous l'avez bien vu. Hein. C'est le portrait d'un poète, qui s'appelle Miguel de Barrios, qui est tout à fait connu et que Romain connaissait, mais il les a représentés en figurant, si vous voulez, le couple idéal de la vie, de la Bible, qui est Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca, c'est un des couples exemplaires de la Bible. Donc quand un poète se fait représenter, plutôt que de voir lui et sa femme, tout comme ça, il faut le faire avec une sorte de perspective, si vous voulez, poético-biblique. Voilà. Donc ils sont représentés autour de cette idée d'Isaac.
Oui, mais en dehors du titre, qu'est-ce qui
est... Rien. Rien. Sinon que dans la Bible, le couple, il y en a d'autres, hein, mais le couple parfait, c'est Isaac et Rebecca. Et donc, voilà, il y a un couple là, idéal, ils se respectent, ils sont... Voilà, donc Isaac et Rebecca sont la perspective. Et ben voilà. On aura révisé la Bible et surtout vu toute une série de scènes qui ne sont pas simplement des scènes que Rembrandt a montrées, mais que vous allez trouver dans toute la peinture, éventuellement d'ailleurs dès le XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, voire après. On a vu que Delacroix, par exemple, en bas, ce qu'on a vu là, c'est vraiment une typologie de scènes bibliques essentielle dans tout l'art européen, notamment au XVIIe. Il est plutôt dans la première moitié, on va dire, vers le milieu. Si. Il n'est pas tôt, il n'est pas tard, il est vers le milieu. Je vous avais mis la date, c'est 36, je crois.
Oui.
Voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant, vous êtes des aficionados de Rembrandt. Je pense que vous saurez reconnaître un Rembrandt parmi n'importe quoi d'autre. D'ailleurs, on le verra plus tard. Et surtout, vous saurez également reconnaître les scènes, quoi, chez lui comme chez d'autres. Non.